Contrairement à la plupart des comiques qui travaillent avec des auteurs issus du stand-up, moi je travaille avec un seul auteur, occasionnel, issu de la physique quantique, le prix Nobel Alain Aspect. Ah. Oui, vous le savez, de temps à autre, Alain m'envoie un petit SMS avec une info, et là c'est intéressant car ça rejoint la conviction de Dominique selon laquelle il est temps de faire le ménage dans l'enseignement supérieur. Car on parle beaucoup des blocus pour Gaza, mais beaucoup moins de cette polémique autour d'un master en sciences de l'éducation proposé à l'université de Montpellier, master donc validé par les instances universitaires, qui se base, je cite, « sur la pédagogie quantique ». Nous y voilà pour développer son leadership vibratoire et ainsi former des Chief Happiness Officers.
C'est complètement fou.
Alors Alain Aspect va plus loin, Nicolas, en disant que c'est même complètement con. Hein. Alain, qui après avoir vu le mot quantique dévoyé dans l'industrie cosmétique avec la fameuse crème quantique de Guerlain, a halluciné de découvrir qu'il était aussi dévoyé dans le milieu universitaire avec ce cursus quantique qui propose carrément des retraites socratiques dans un monastère bouddhiste de l'Hérault, orienté, je cite, vers le chamanisme et le tantrisme ésotérique. Rappelons-le avec force, la pédagogie quantique, c'est comme l'astrologie cartésienne ou la neurologie pâtissière. Ça n'existe pas. Rien n'existe sauf le hasard, disait d'ailleurs Paul Auster. Que j'ai réussi, oui, à recaser comme ça, là, ça. In extremis à 7h54, sauvant tant bien que mal mes 3T dans Télérama. Je vous laisse, faut que j'aille exercer mon leadership vibratoire dans Zoom Zoom Zen, car oui, je suis aussi en direct cet après-midi.
C'est plus que du service, c'est du dévouement.
Oui, espérons que la DRH d'Inter fasse partie de nos 36 auditeurs.
Merci Mathieu Noël et merci à vous de nous rejoindre sur Inter. 8h01. Et le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, ce matin, des voitures chinoises en France, marché à conquérir, surtout dans l'électrique. Alors qu'en Chine, les constructeurs français ont baissé les bras. La voiture française là-bas, c'est spectaculairement ringard. On va l'entendre dans un instant, dans les allées du Grand Salon de Pékin. Des manifestations et du muguet, nous sommes le 1er mai, fête du travail. Dans un climat d'austérité, les syndicats contre la politique sociale du gouvernement. On parle avec votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, avec Yael Gauz, nous recevons à 8h20 dans le grand entretien de la matinale la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Vos questions 01 45 24 7000 et l'application d'Inter.
D'ici là, nous reviendrons sur la mort de Paul Auster, dont on vient de parler avec son éditrice française. L'écrivain américain a passionné les lecteurs ici en France plus qu'ailleurs. Nous serons à New York où les étudiants pro-palestiniens qui occupaient l'Université de Columbia ont été délogés par la police cette nuit. On entendra l'appel des sénateurs qui demandent l'ajournement du calendrier des passoires thermiques. Impossible, disent-ils, de sortir du marché les logements classés G dès l'an prochain. Et puis nous serons en Allemagne, à Dortmund, où les supporters du PSG sont confiants pour le match de ce soir. Demi-finale aller de Ligue des Champions cette année, c'est la leur. Ils croisent les doigts.
France Inter.
C'est le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Le constructeur chinois BYD part à la conquête de la France. Il ouvrira ses deux premières concessions ce mois-ci en Gironde et dans la Vienne. Et pendant ce temps-là, en Chine, c'est tout l'inverse pour les Français Renault et Citroën. Même pas un stand pour les représenter à l'immense salon automobile de Pékin. L'échec est cuisant pour l'industrie française, surtout dans l'électrique. Reportage signé Sébastien Berriot.
Parmi les milliers de Chinois qui déambulent ce matin dans les allées du salon, beaucoup ont fait le déplacement pour choisir leur future voiture. La plupart des marques présentent ici leurs modèles, chinoises, européennes ou encore américaines, mais pas françaises. Renault, Peugeot et Citroën n'ont pas de stand au salon et on comprend vite pourquoi.
Les voitures françaises appartiennent au passé et je n'arrive même plus à me souvenir du nom des marques.
Je sais que les voitures françaises sont de bonne qualité et résistantes, mais aujourd'hui, leurs produits ne sont plus au goût du jour. Elles ne m'intéressent pas.
Le directeur général de Renault a quand même fait un passage au début du salon, mais contrairement à des marques européennes comme Volkswagen, les Français hésitent encore à se lancer dans ce grand marché chinois du véhicule électrique, très concurrentiel. Et les chiffres français sont même dérisoires, explique Li Yangwei, expert automobile.
Citroën et Peugeot produisent seulement des véhicules hybrides en Chine et avec très peu de ventes. Citroën n'a qu'une seule voiture hybride, la C5. Au cours du premier trimestre, seulement 2 exemplaires ont été vendus dans toute la Chine. Peugeot, de son côté, a vendu une seule voiture hybride.
Seule présence française sur un stand, l'équipementier Valeo, qui lui travaille avec les principaux constructeurs chinois de véhicules électriques. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Renault et Stellantis pourront au moins se rassurer en France. Leurs ventes sont en hausse de 4,5 et 2% au mois d'avril, selon les tout derniers chiffres parus cette nuit.
Il est 8h05, bullé pour la fête du travail, principale activité de la journée.
Sauf si vous faites partie des 120 à 150 000 manifestants attendus dans les rues pour le rituel défilé du 1er mai, à l'appel des syndicats, contre l'austérité pour l'emploi et les salaires. Certes, les cortèges s'annoncent bien moins fournis que l'an dernier en pleine réforme des retraites, mais les centrales Maxime Debs s'attendent à un bon cru, vu le climat du moment.
Oui, tout à fait. Mais non, mais comme je vous l'ai dit, je suis un peu pris par le 1er mai, là. Hein ?
S'il ne sait plus trop où donner de la tête, c'est que Jacques Borenstein, à l'Union départementale Force ouvrière à Paris, est un peu débordé. Depuis un an, les retraites, l'actualité sociale ne s'est pas vraiment calmée. D'autant qu'avec elle, il a fallu gérer l'afflux de nouveaux adhérents. Un bon point, entre guillemets, pour les syndicats, certes, mais le signe aussi que les préoccupations sont nombreuses cette année.
La guerre aux chômeurs déclarée, la sécurité sociale, dans cette ambiance un peu maussade, on a eu environ 9% de nouveaux adhérents sur le bilan 2023. Cette année, on est à peu près sur la même trajectoire. Des adhésions sur la tranche 30-40 ans qui ont envie de défendre ces droits qui sont remis en cause.
Même tendance, maison des syndicats à Malakoff, dans le sud de Paris. La CGT où Cédric Mastin voit lui aussi de nouvelles têtes arriver.
C'est pas au même niveau que lors des retraites, mais voilà, avec tout ce que, au début de l'année, la loi immigration, et puis faut pas oublier aussi les salaires aussi, tout ce cocktail-là, ça devrait faire un bon 1er mai assez revendicatif.
Les motifs de colère qui ne manqueront pas dans les différents cortèges, agrémentés donc de nouveaux adhérents qui, pour certains, défileront pour la première fois aujourd'hui.
Les cortèges s'élanceront à 10h ce matin à Marseille, Strasbourg ou Clermont-Ferrand. À Paris, la CGT, la CFDT, FSU et Solidaires appellent à défiler de la place de la République à la Nation à partir de 14h. Et dans la série des changements du 1er mai, le doublement des franchises sur les médicaments et les consultations à partir d'aujourd'hui, ou encore le reste à charge de 100 € pour se payer une formation avec son compte CPF. Le 1er mai, c'est aussi un parfum, celui du muguet, évidemment. 5 à 10% du chiffre d'affaires des fleuristes qui n'ont pas le monopole des brins. Il n'y a qu'à regarder les étals sur les trottoirs. Le muguet, toujours plus cher, mais quand on aime, on ne compte pas, Charlotte Schumacher.
C'est pour offrir ?
Oui.
Dans sa boutique à Villers-Seixelles, Florian s'active, le rush commence.
Des compositions pour tout ce qui est muguet, avec de la rose, sans rose, pour combler un peu les attentes de tout le monde. Je me cantonne à 500 brins.
Des brins achetés 2% plus cher comparé à l'année dernière auprès de son fournisseur, tout comme Nadège, gérante de la serre à Vesoul, qui a tenu à ne pas augmenter les prix en magasin, quitte à ne pas faire beaucoup de marge.
Faut pas faire peur aux gens. Enfin, ça reste, voilà, c'est un porte-bonheur, donc faut rester correct, honnête. Puis je pense que c'est comme ça qu'on garde et puis qu'on fidélise nos clients.
Et face à la concurrence, ces particuliers qui vendent à petit prix le muguet dans la rue, Nadège vante la belle qualité de son muguet venu de fournisseurs locaux.
Ils viennent de Besançon, de Haute-Saône. Il y a PEM en Haute-Saône qui nous fournit aussi en fleurs.
Même son de cloche à Port-sur-Saône dans la boutique de Patricia. Elle confirme, c'est compliqué de se faire un peu de sous ce 1er mai.
Pas avec le muguet, c'est pas rentable pour nous. On continue quand même, pour les habitués.
Et oui, parce qu'il y en a des habitués qui tiennent à ce brin de muguet.
Oui, pour certaines personnes, oui. Oui, c'est un rituel. Pas les jeunes, personne d'un certain âge.
Les jeunes n'achètent pas le muguet, hein ?
Très peu.
Elle s'attend quand même à voir ça. La boutique pleine toute la journée.
Un reportage France Bleu Besançon. Il était l'écrivain du hasard, Paul Auster, et ses romans qui vous accrochaient dès la première phrase. Il avait 77 ans, il est mort d'un cancer chez lui à Brooklyn. Auteur d'une quarantaine de livres, Léviathan, Moon Palace ou Le Voyage d'Anna Blum, édité par Actes Sud en France. On a entendu son éditrice tout à l'heure avec Sonia De Villers. Ilana Mor-Youssef, Paul Auster était francophile et francophone.
Longtemps, il a été plus connu en France qu'aux États-Unis. Dans les années 70, le jeune Paul Auster, né dans une famille juive originaire d'Europe centrale, passe 3 ans à Paris. Il traduit Mallarmé, Sartre, Simenon. Il envisage de passer le concours de l'IDEC pour devenir cinéaste, mais la littérature l'emporte. L'invention de la solitude le fait connaître, premier d'une série de romans marquants. Écriture dépouillée, mais architecture narrative complexe, faite de digressions, d'histoire dans l'histoire, est toujours une préoccupation qu'il exposait au micro de François Bunel sur France Inter en 2013.
Again and again, I want to say this.
Encore et encore, je veux le redire.
What it feels like to be alive.
À quoi ça ressemble d'être vivant.
I think that's been my mission.
Je crois que c'est ma mission en tant qu'écrivain.
More than anything else.
Plus que toute autre chose.
It's so strange to be alive.
C'est tellement étrange d'être vivant.
Parler de Paul Auster, c'est aussi parler de sa deuxième épouse, Siri Hustvedt, elle aussi écrivaine. À eux deux, ils ont longtemps incarné le glamour intellectuel new-yorkais.
Si j'ai une muse, c'est Siri, qui est le centre de ma vie, qui m'a sauvé la vie. J'étais seul, divorcé, triste, sans grand espoir, quand je l'ai rencontrée par hasard. Sans elle, ma vie, depuis ces 32 dernières années auraient été tout à fait différentes.
C'est elle qui, ces derniers temps, donnait de ses nouvelles sur Instagram. Elle aussi, qui l'a soutenue dans l'épreuve qui a assombri la fin de sa vie, la mort de son fils aîné par overdose.
Paul Auster, à qui l'on doit aussi deux films, l'un sombre, l'autre drôle, sorte de yin et de yang cinématographique avec une distribution à couper le souffle. C'était Smoke et Brooklyn Boogie. France Inter continue à rendre hommage à Paul Auster dans le 9-10 tout à l'heure. Et puis on reste à New York, dans le nord de Manhattan, cette fois à l'université de Columbia où Auster avait étudié. La police y a délogé cette nuit les étudiants pro-palestiniens barricadés depuis la veille dans l'un des bâtiments du campus. Reportage signé Loïc Loury.
Oui, vers 21h environ, des centaines de policiers en tenue anti-émeute sur demande de l'université sont arrivés sur place avant d'investir les lieux et d'évacuer au pas de charge la partie extérieure du campus, puis ce Hamilton Hall où se trouvaient quelques dizaines d'étudiants. Ils en sont sortis les mains attachées avant d'être chargés dans des bus et emmenés sous le regard des derniers manifestants qui bravaient la pluie. Adrien, notamment un habitant du quartier.
C'est intolérable de me dire que je suis impuissant. On a ce sentiment d'impuissance dans ce pays face à ce fascisme rampant. Et il y a quelque chose comme de la culpabilité, même si, comme moi, vous êtes du côté des manifestants. De savoir que mes impôts ont servi à massacrer 15 000 enfants, c'est quelque chose qui me pèse.
Et ce quartier de l'université était toujours bouclé après minuit alors que les derniers manifestants se dispersaient. C'est la fin du mouvement d'occupation de Columbia, très clairement. Mais des manifestations, des sit-ins et parfois des occupations de bâtiments se poursuivent partout dans le pays.
Loïc Loury à l'université de Columbia aux États-Unis. Et toujours pas de trêve à Gaza. Le Hamas n'a pas donné sa réponse à la proposition égyptienne négociée avec Israël. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est aujourd'hui à Jérusalem pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Londres-Kigali, pour la première fois, le Royaume-Uni a expulsé un demandeur d'asile vers le Rwanda. Mais à la différence de la toute nouvelle loi votée la semaine dernière, cette expulsion a été volontaire, moyennant finance. L'homme qui a accepté le deal avait vu sa demande d'asile rejetée.
Il est 8h12. Faut-il vraiment interdire les appartements et les maisons classées G à la location dès l'an prochain?
En pleine crise du logement, ce serait une erreur, selon les sénateurs qui ont travaillé sur le sujet au sein d'une mission d'information depuis 4 mois. Même au nom du climat, on ne peut pas se le permettre, dit Amel Gacker, sénatrice UDI du Pas-de-Calais.
Nous sommes dans un contexte de pénurie en fait, de logements. On manque de logements locatifs. On a en fait, aujourd'hui un vrai blocage du parcours résidentiel. On ne peut pas accéder à la propriété où il manque du logement social, où l'immobilier coûte très cher. Et donc, dans ce contexte-là, si en 2025, on sort les logements G, nous aurons encore moins de logements disponibles. Et donc, il nous paraît, dans le contexte de crise tendu que nous connaissons, que ce calendrier n'est plus opportun. Évidemment, il ne s'agit surtout pas d'abandonner en fait, hein, nos ambitions en matière de rénovation, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de dire que dans ce contexte, on a besoin aujourd'hui de déroger à cette règle, et donc on propose concrètement de repousser en fait, à 2028 l'interdiction de ces locations de logements classés G.
La sénatrice UDI Amel Gacker avec Ajra Mohamed. Mimi Marchand a-t-elle obtenu 1600 euros de l'animatrice d'M6 Karine Lemarchand pour que des photos gênantes de sa fille ne paraissent pas dans la presse? Le parquet de Paris demande que la papesse des paparazzi soit jugée pour extorsion avec un photographe et deux policiers. Karine Lemarchand avait porté plainte en 2020. Les cyberattaques en hausse de 30% l'an dernier et l'on redoute le pire encore cette année avec les Jeux Olympiques. Pour s'en prémunir, certaines entreprises font donc appel à des hackers éthiques, des geeks passionnés de cybersécurité. Ils sont payés pour trouver trouver des failles dans les systèmes informatiques. C'est devenu une profession, Manon Derdevet, de plus en plus recherchée.
Bonjour, c'est Baptiste Bruno, plus connu sous le pseudo de Hadibou.
Depuis 2 ans, ce Lyonnais de 23 ans est hacker éthique professionnel. Son travail, chercher dans les systèmes informatiques la moindre faiblesse, pas pour les pirater, non, mais pour aider les entreprises ou les administrations à être plus fortes. Pour le contacter, impossible de se rendre chez lui, il faut le joindre à distance.
On va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir contourner, corrompre un petit peu un système qui a été construit pour ne pas l'être. C'est vraiment ce challenge-là qui me plaît.
Plus la vulnérabilité détectée est critique, plus la prime accordée aux hackers sera élevée. Hadibou a déjà gagné jusqu'à 60 000 euros pour une mission. Face à la multiplication des cyberattaques, de plus en plus d'entreprises font appel à ces chasseurs de primes, mais aussi des administrations publiques comme la Direction interministérielle du numérique. Anna-Livia Gomard est en charge du programme d'incubation de nouveaux outils interministériels.
Bien sûr, on sait que les JO, c'est une période où il y a un très grand risque d'attaque. C'est pour ça aussi qu'en amont, on fait en sorte de bien comprendre comment on était vu du point de vue de hacker éthique, pouvoir réparer ces failles avant que quelqu'un les exploite.
Certaines multinationales peuvent rémunérer ces chasseurs éthiques jusqu'à 230 000 euros la mission.
Manon Derdevet, c'était son dernier tournoi de Madrid. Raphaël Nadal l'a quitté en 8e de finale hier, battu en 2-7 par le jeune tchèque Jiří Lecha. Malgré les encouragements des Madrilènes et une ovation debout au moment de la balle de match, sa tournée d'adieu à 38 ans passera ensuite par Rome dans 8 jours pour son dernier Master sur terre battu avant Roland-Garros, qu'il ne jouera que s'il se sent suffisamment prêt. 2 buts partout sur la pelouse de Munich, le Real Madrid et le Bayern ont fait match nul hier soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Les Espagnols seront donc en ballotage favorable pour le match retour la semaine prochaine. Ce soir, c'est Paris qui est attendu, aussi en Allemagne, à Dortmund, le PSG favori de cette demi-finale. Ses supporters ne sont pas trop inquiets, au micro de Xavier Monferrand.
Dans le centre-ville de Dortmund, les supporters parisiens ont le sourire avant de retrouver le Borussia. Le soleil est là, les certitudes aussi, impensables que ça s'arrête ici pour Tariq.
Confiant, confiant. Très honnêtement, cette année, c'est la nôtre. Pour leur donner la baraka, j'ai déjà tout réservé pour la finale.
Confiant aussi, Théo, mais prudent surtout. Lui préfère ne pas vendre la peau du Borussia avant d'être qualifié.
Plutôt bien. Un peu stressé forcément, mais on a quelques casseroles derrière nous. Donc, ce qui est dangereux, c'est de gagner largement à l'aller et d'être trop confiant au retour.
Les mauvais souvenirs sont tenaces, mais la remontada paraît bien loin maintenant et le PSG n'est plus le même qu'au mois de décembre quand les Parisiens étaient venus arracher péniblement leur qualification à Dortmund, assure l'attaquant Gonçalo Ramos.
Je pense que maintenant nous sommes plus une équipe que la dernière fois que nous avons joué aussi ici. Nous avons eu plus de temps pour travailler. Les joueurs, nous connaissons mieux entre nous. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et maintenant nous sommes comme une famille.
Et dans la famille, le message est clair. La Ligue des Champions, ce n'est plus une obsession. Jusque-là, la méthode Coué a plutôt bien fonctionné.
Voilà, Dortmund PSG, coup d'envoi à 21h. Enfin, qui a gagné les 166 millions d'euros de l'Euromillion hier soir? On imagine que les footballeurs des grands clubs européens n'ont pas joué, ils n'en ont pas besoin. C'est un Français qui l'a remporté. Quelqu'un autour de la table?
Non.
C'est le seul gagnant de ce jackpot en Europe. 166 millions d'euros.
Merci.
On lui souhaite une bonne journée.
Ah bah ça, oui. Merci Florence Paracuelos. Elle sera merveilleuse. Elle incarne Coco Chanel dans la série The New Look sur Apple TV+. Juliette Binoche est l'invitée de Léa Salamé à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et difficile d'échapper à la pluie dès ce matin.
Et oui Nicolas, excepté vers la Lorraine et l'Alsace où le soleil résiste et on pourrait avoir quelques éclaircies également de retour sur la Bretagne et un peu sur la Haute-Normandie au bassin parisien. Ailleurs c'est pluie ou bien ciel gris avec déjà un orage possible sur l'ouest de la Corse. Il va neiger sur les Pyrénées des 1800 mètres. Alors pourquoi toute cette pluie? Bien ce matin on a la perturbation d'hier qui ondule de la Provence au Languedoc vers le Massif central au Val-de-Loire avec des passages pluvieux soutenus parfois et une deuxième perturbation qui vient d'Irlande qui s'étend du Cotentin aux Pyrénées. Elle est active actif surtout en Aquitaine ce matin. Et alors qu'il fait 5 degrés à Lorient et 7 à Mende, vous avez 16 dans le Var et Ajaccio.
Et vigilance orange pour 14 départements cet après-midi.
Oui, à cause de 3 salves orageuses. Une première prévue dès 17h qui concerne les départements de la Bourgogne. Une deuxième vers 19h sur l'Île-de-France. Et une troisième vers 21h sur les Hauts-de-France. On va surveiller également les cumuls de pluie. On attend parfois jusqu'à un mois de pluie en quelques heures. En fait, les deux perturbations vont fusionner et créer un conflit de masse d'air qui va déclencher ces violents orages. Des orages qui éclateront également sur la Corse, des Pyrénées au Massif central, en remontant sur le centre à la Normandie. En revanche, vers l'Alsace et la Lorraine, le soleil résistera et vous bénéficierez de belles éclaircies entre deux averses de la Bretagne au Pays Basque, sous un mercure en baisse. Par endroits, Nicolas, on va perdre jusqu'à 9 à 10 degrés, comme à Bordeaux où hier il a fait 22. Aujourd'hui, vous aurez seulement 13 degrés, comme à Biarritz, pas plus de 14 au Havre. En revanche, il fera encore 21 à Paris ou à Bourg-en-Bresse, 22 à Lille, 26 à Colmar, mais 16 à Saint-Tropez, en se rappelant que s'il pleut 1er mai, peu de coin, s'il pleut le 2, tu n'as plus rien. Voilà, vous êtes
prévenus. Mystérieux celui-là. Merci Marie-Pierre. Il est 8h20.
Le 7-10. Listen anywhere. Huawei Duba. Wahdahu Mansouria. Nibrinit. Sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Pierre Aski.
Bonjour Nicolas.
Pierre, vous vous intéressez ce matin aux efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza.
Comment arrêter une guerre qui dure depuis bientôt 7 mois et dont les répercussions se font sentir dans une bonne partie du monde? Une fois de plus, les rumeurs d'un accord de cessez-le-feu imminent circulent au Proche-Orient, où le balai des négociateurs tient lieu de baromètre diplomatique. Dans le même temps, Benjamin Netanyahou a déclaré hier que l'offensive israélienne sur la ville palestinienne de Rafah, où sont concentrées plus d'un million de personnes, aurait lieu avec ou sans accord sur les otages. Cette déclaration du dirigeant israélien est à double détente. Elle pourrait n'être qu'une sortie inflexible pour mieux préparer un accord imminent, comme elle pourrait chercher à faire monter les enchères. Samedi, le ministre qatari des Affaires étrangères, l'un des négociateurs en coulisses entre Israël et le Hamas, a commenté que chaque fois qu'on approchait d'un accord, les deux protagonistes le sabotaient. Comme si aussi bien le chef du gouvernement israélien que les dirigeants du mouvement islamiste palestinien avaient intérêt à prolonger les hostilités.
Et pour quelle raison, Pierre ?
Du côté de Netanyahou, on voit bien l'enjeu. Le Premier ministre veut à tout prix un succès militaire qui lui a jusqu'ici échappé. Les leaders clandestins du Hamas restent introuvables, d'où l'obstination à lancer l'assaut sur Rafah, malgré le coût humain élevé inévitable. Sans ce succès, Netanyahou sait qu'il va devoir rendre des comptes sur la faille de sécurité du 7 octobre. Le chef du renseignement militaire a annoncé sa démission, mais aucun politique ne l'a encore fait. Il a aussi la pression de ses alliés d'extrême droite, comme le ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, qui a appelé hier à poursuivre l'offensive à Rafah pour éliminer Amalek, une référence biblique aux ennemis des Juifs. Le Hamas aussi trouve son compte dans la poursuite de cette épreuve qui le renforce comme principal adversaire d'Israël. Le retour à une phase politique après la guerre et la libération des otages risque d'être plus compliqué pour les responsables du massacre du 7 octobre.
Alors, quelles sont les chances d'un cessez-le-feu ?
Les Américains et les pays de la région font ce qu'ils peuvent, Nicolas, car ils ont tous un intérêt à la fin des hostilités. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est d'autant plus à la manœuvre que le climat politique aux États-Unis autour du conflit à Gaza pèse de plus en plus lourdement sur la campagne de Joe Biden. Les pays arabes aussi voudraient voir cette crise se calmer, car elle les met en porte-à-faux avec leurs opinions bien plus sensibles que les gouvernants au sort des Palestiniens, et elle plombe les perspectives régionales de développement. En particulier, l'Arabie Saoudite, qui vise toujours une intégration régionale incluant Israël. Anthony Blinken l'a confirmé hier, mais impossible pour Riyad de franchir ce pas tant que dure cette guerre. Une fois de plus donc, la région hésite entre la guerre et, sinon la paix, au moins la non-guerre. Et la décision est entre les mains d'une poignée d'hommes. Les membres du cabinet de guerre israélien, rivaux en politique mais confrontés à ce choix décisif, et les dirigeants du Hamas, dont on ignore où et dans quel état ils se trouvent, mais que 7 mois de guerre n'ont pas brisé. Les peuples, eux, subissent.
Pierre Aski, merci. Et merci aussi à France Bleu Alsace pour la liaison technique. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Marie-Lise Léon.
France Inter, 16h, Mathieu Noël.
Les cartes aussi sont politiques. Ce mercredi, zoom sur ces zones encore oubliées des cartographes. Pourquoi le sont-elles d'ailleurs oubliées ? Zoom sur le blanc des cartes.
Zoom zoom zen, tous les jours à 16h sur Inter.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Il est 8h24.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Yael Gauz, nous recevons ce matin la secrétaire nationale de la CFDT dans le grand entretien. Question-réaction 01 45 24 7000 et sur l'application d'Inter. Marie-Lise Léon, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Avant d'en venir aux dossiers comme l'assurance chômage, le dialogue social, les salaires, quelques mots pour commencer sur l'état du pays, sur le climat général à 40 jours des élections européennes. Vous êtes à la tête d'une organisation de plus de 600 000 adhérents. Quelle remontée avez-vous du terrain? Quel vous semble être le climat du pays? Tendu, abattu, résigné, résilient? Quel mot employez-vous ce matin?
Alors, moi, je ne fais pas un déplacement sans qu'on me parle du pouvoir d'achat. Ça reste le sujet prioritaire pour les travailleurs, qu'ils soient d'ailleurs dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques. Et puis la question du travail qui a émergé fortement au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, elle demeure. Donc, c'est une. Je pense qu'on est à un moment un peu clé où on vit une crise du travail. On a beaucoup parlé de la question de la crise démocratique il y a quelques mois. Cette crise n'est pas résolue et on est aussi dans le monde du travail face à une crise du travail. On nous parle beaucoup du sens au travail, de la question de la dignité, du respect, de vivre dignement de son travail. Et le mot que j'entends le plus, c'est comment je peux bien faire mon travail. Et donc ça, c'est autant de défis qui sont posés à mon organisation syndicale, qui est une organisation de transformation sociale. Comment on part du réel, comment on construit du progrès, comment on protège les travailleurs, ça c'est un défi. Et puis, il y a toutes les évolutions du monde du travail, avec la transition écologique juste, la transition numérique, et donc c'est un bouleversement total. Et là où j'entends beaucoup d'inquiétudes, et d'attente de la part des travailleurs, c'est un, être écouté, et deux, avoir des employeurs qui soient à la hauteur du moment qu'on traverse.
On va revenir à la question des salaires, évidemment, dans quelques instants.
Et dans le climat actuel, Marie-Lise Léon, il y a aussi ces manifestations étudiantes pro-palestiniennes qu'on a vues à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, mais aussi à Rennes, Menton, Lyon, Saint-Etienne. Quel regard vous portez sur le thème et sur les formes de cette mobilisation? Est-ce que c'est pour vous un classique de la jeunesse étudiante, ou est-ce qu'on a basculé dans autre chose?
Non, il y a toujours eu des mobilisations de cette nature sur des grands sujets, et je pense que des jeunes aujourd'hui qui se mobilisent face à la situation catastrophique à Gaza, ça me semble normal. Ce qui me paraît aujourd'hui inacceptable, c'est qu'il puisse y avoir dans ces mobilisations des propos antisémites. C'est inacceptable, ils doivent être condamnés, et je trouve inacceptable la récupération politique qu'il puisse y avoir de ce type de mobilisation, et donc ça reste un... Je trouve que c'est normal, mais que notamment les partis politiques et les mouvements politiques doivent rester à bonne distance de ce type de mobilisation.
Et pourtant, depuis 48 heures, il y a des politiques qui posent la question du financement public de Sciences Po. On a vu Valérie Pécresse suspendre les enveloppes de la région, Manuel Valls préconiser une mise sous tutelle si l'établissement ne se ressaisit pas. En mars, Gabriel Attal était venu à Sciences Po au conseil d'administration pour dire que le poisson pourrissait par la tête. Y voyez-vous là, vous, une atteinte au principe de liberté académique, universitaire?
Je pense que c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de bruit politique pour instrumentaliser justement cette situation. Le directeur de Sciences Po a mené une enquête. Il y a eu des sanctions. Je pense que l'heure est à l'apaisement et certainement pas à la récupération politique pour faire uniquement de la communication.
Et donc, vous ne voyez pas ce mouvement s'étendre? Pour vous, il est très localisé.
Il est localisé pour le moment.
Qu'en disent les jeunes cédétistes?
Les jeunes cédétistes, alors les jeunes cédétistes sont des travailleurs, principalement. Oui. Moi, je ne considère pas que ça soit à nous, organisation syndicale, de se mêler de ce type de mouvement avec... voilà, moi je le redis, je comprends qu'il y ait cette indignation face à la situation à Gaza. Je ne supporte pas qu'il puisse y avoir dans ces mobilisations des propos, des slogans antisémites. Et donc c'est par établissement qu'il doit y avoir cette régulation et du débat. Il faut pouvoir poser les choses de façon apaisée.
Encore un mot du climat politique. Nous sommes à 40 jours des élections européennes et Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote. Le total de l'extrême droite pourrait avoisiner les 40%. Comment expliquez-vous cette dynamique du RN ?
Je pense que c'est une... Il y a une énorme... J'évoquais la question de la crise démocratique. Je pense qu'on a des politiques qui considèrent que l'exercice de la démocratie, c'est uniquement le vote et l'élection. Et qu'il ne se passe pas grand-chose entre deux élections, à part on a été élu, on décide tout seul. Donc je pense qu'il y a une fatigue, une lassitude démocratique. Moi, je l'entends dans les entreprises, sur les lieux de travail, bien entendu, qu'on parle de politique. Il y a beaucoup de salariés, de travailleurs qui nous disent ils parlent des vrais sujets, ils parlent du travail, ils parlent du pouvoir d'achat, ils parlent de... on se sent écouté et considéré par...
C'est le RN, hein,
ce
c'est
sont les représentants. Et alors, ils n'ont pas l'exclusivité, mais je pense que ça contribue de cette dynamique. Et puis, ce que j'entends beaucoup, c'est ce sont les seuls qui n'ont jamais été en exercice du pouvoir, et donc on n'a qu'à essayer. Et moi, et donc c'est l'occasion pour la CFDT, sur ces lieux de travail, que les militants aillent à la rencontre de ces électeurs du RN ou de l'extrême droite en général, pour dire mais c'est une impasse. Ce qu'ils proposent, ce sont plutôt que des propositions. Ce sont des boucs émissaires qu'ils pointent et que les travailleurs votent pour l'extrême droite, c'est voter contre les droits sociaux et donc c'est totalement antinomique avec ce que l'on porte.
Marie-Lise Léon, dans un texte signé récemment, c'était la préface de la réédition des Jours Heureux, le programme du Conseil National de la Résistance. Sophie Binet, votre homologue de la CGT, écrivait « Il est minuit moins le quart, l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain, une à une, les digues politiques et morales sautent ». Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Il est minuit moins le quart ?
Il est urgent, effectivement, que l'ensemble des acteurs démocratiques se mobilisent. C'est ce que l'on a fait d'ailleurs avec une initiative commune avec l'organisation UNSA, CGT, CFDT, pour donner à voir qu'est-ce que les idées d'extrême droite, lorsqu'elles sont mises en œuvre concrètement, en quoi ça ne va pas avec, ça n'est pas compatible avec les droits sociaux. Ce sont des partis, c'est un mouvement qui considère que... qui basent leur doctrine sur l'inégalité de droits entre les travailleurs. On a récemment eu d'ailleurs un exemple. Une députée RN a déposé un amendement à l'occasion d'un débat sur une loi plein emploi.
Laure Lavalette,
pour dire... dans l'entreprise, les salariés étrangers ne peuvent plus participer aux élections professionnelles. C'est à l'inverse de ce que l'on porte, nous, en termes de collectif de travail, de démocratie, d'émancipation. Et je pense que tout un chacun peut bien comprendre que lorsque on est dans un collectif de travail, un atelier où on partage le quotidien, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de diviser les salariés et les travailleurs, que de porter ce type de proposition. Les étrangers restent les boucs émissaires, le problème a tous les maux en France, et c'est une totale impasse.
Une question précise, après cet entretien, vous partez pour Nancy débattre de l'Europe, la CFDT se dit pro-européenne, c'est clairement le message du 1er mai, et le 23 mai, vous allez organiser votre propre grand oral des têtes de liste avec tout le monde ?
On va inviter toutes les têtes de liste qui ont un projet européen et qui partagent nos valeurs. Donc il n'y aura pas les deux représentants des partis d'extrême droite.
C'est-à-dire Reconquête et le RN. Est-ce que c'est le meilleur moyen de combattre le RN que de les ostraciser ?
On le combat, on ne débat pas avec les responsables du RN, on les combat. Ça, c'est le slogan de la CFDT. Par contre, sur les lieux de travail, notre boulot de militant, c'est d'aller à la rencontre des électeurs du RN pour leur expliquer notre vision des choses et qu'ils se fassent leur propre opinion et qu'ils soient convaincus que ça ne peut être qu'une impasse.
Marie-Lise Léon, venons-en au cortège du 1er mai. Il y a un an, les syndicats, les huit principaux, avaient défilé ensemble. C'était du jamais vu depuis près de 15 ans. Le contexte était alors celui de la lutte contre la réforme des retraites. Un an après, il n'y a plus d'union sacrée. Pourquoi avoir abandonné ce modèle du
d'unité ?
Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Il y aura un cortège en Ile-de-France avec un ensemble d'organisations syndicales, dont la CFDT, la CGT, l'UNSA. Il y aura plusieurs syndicats présents. Il n'y a pas d'appel national, interprofessionnel, parce que nous souhaitions que ce soit l'Europe. Ce n'était pas forcément le choix d'autres organisations syndicales. Donc, je vais à Nancy pour un moment festif, puisque c'est la fête du travail. Et donc, on aura un ensemble d'animations pour parler d'Europe et d'Europe sociale, et de en quoi le scrutin du 9 juin, il est crucial pour l'avenir de l'Europe et le Parlement. Il y a des initiatives qui sont en commun ou pas. L'intersyndicale de 2023 était une intersyndicale sur les retraites. On était tous d'accord pour dire non aux 64 ans. Depuis, on a appris à se connaître, on a appris aussi à comprendre quels étaient ce qui nous rassemblait, ce qui pouvait également, ce sur quoi on n'était pas d'accord. Ça ne nous empêche pas de nous voir régulièrement et d'avoir des initiatives communes, comme je l'ai évoqué encore il y a 15 jours avec la CGT et l'UNSA.
L'un des dossiers chauds de ce printemps, c'est l'assurance chômage, la réforme. Le gouvernement a repris la main 2 semaines après l'échec des négociations entre partenaires sociaux. Y avait-il une autre issue à cette fin du paritarisme, est-ce que vous ne devriez pas aussi balayer devant votre porte parce que c'est votre échec, à vous, partenaires sociaux, si vous ne vous êtes pas entendus?
Moi, je veux bien prendre ma part de responsabilité. Mon organisation, elle s'est engagée dans un accord partiel à la fin de l'année 2023. Le principe du dialogue social, c'est qu'il faut être deux. Quand on parle tout seul, ça a quand même un intérêt assez limité. Et les vrais objectifs du gouvernement, est-ce que c'est avoir des règles les plus justes possibles en termes d'assurance chômage, ou est-ce que c'est un ajustement budgétaire? Je pense que, moi je suis convaincue que c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Donc, le gouvernement se cache derrière son objectif de plein emploi en expliquant, pour atteindre le plein emploi, on va réduire les droits des chômeurs. C'est ça la vérité, c'est ça leur véritable objectif. Et quand on est à un moment, j'évoquais la période aussi extraordinaire qu'on est en train de vivre, de transformation. Transition, je vous parle de la transition écologique juste. Aujourd'hui, cette semaine, l'entreprise Nexity a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi avec 502 salariés qui sont concernés. Et je pense qu'à un moment comme aujourd'hui, où on a des défis majeurs, un gouvernement qui nous dit qu'il faut baisser le droit des chômeurs, plutôt que de dire on va devoir faire face à des mutations et des reconversions massive, je pense que les salariés ont plutôt envie qu'on leur parle de l'accompagnement et de la façon dont ils veulent continuer de se projeter dans l'emploi.
La réforme durcirait les règles et pourrait mobiliser 3 leviers. Durée d'indemnisation, conditions d'affiliation, c'est-à-dire le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé, et niveau d'indemnisation. Ce sont 3 lignes rouges pour vous, ou y a-t-il l'un de ces leviers qui a votre préférence ?
Il n'y a pas de préférence parce qu'il n'y a pas de... La question est mal posée. Et je reviens, c'est quoi l'objectif de cette réforme ?
Le gouvernement vous le dit, c'est plein emploi.
C'est plein emploi, mais
vous le croyez
aucune...
pas.
Je lui demande quelles sont les études qui nous prouvent, scientifiques, que la modification des règles d'assurance chômage va créer l'emploi. Moi, je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Donc, quels sont les véritables objectifs ? Et donc... Et on est sur une problématique qui est purement budgétaire. Et quand je dis que le syndicalisme CFDT, c'est de la transformation sociale, partir du réel. La réalité, c'est que les chômeurs ne le font pas par choix, ne sont pas dans cette situation parce qu'ils le décident, parce que c'est souvent subi et qu'ils ont besoin d'accompagnement. Le vrai sujet du moment aujourd'hui en 2024, c'est mettre le paquet sur la formation professionnelle, sur les reconversions et sur l'accompagnement des personnes qui ne sont pas en emploi aujourd'hui.
Là, on se dirige tout droit vers un décret au 1er juillet. D'ici là, vous ferez la chaise vide avec le gouvernement ?
Alors, non, vous connaissez la CFDT.
Voilà.
Donc, on occupera toutes les chaises possibles et imaginables pour pouvoir faire valoir notre point de vue et continuer de porter cette question de justice sociale. Et ce que fera le gouvernement, à un moment, il faudra aussi qu'il soit en capacité d'expliquer pourquoi il fait cette réforme. Et on a mené cette bagarre au moment de la réforme des retraites. Il a été quand même bien en difficulté de nous expliquer que c'était une réforme de justice sociale.
Oui. Délai de carence. Le gouvernement envisagerait d'allonger le délai de carence après un licenciement ou une rupture conventionnelle pour éviter qu'il y ait un cumul d'indemnités de licenciement et d'allocations chômage. Délai aujourd'hui plafonné à 6 mois. L'une des pistes du gouvernement serait de l'allonger. Est-ce que là aussi vous vous y opposez ? Changement des règles du délai de carence.
Je redis, la bonne question n'est pas posée, donc tout ce qui peut être mis sur la table ne peuvent être que des mauvaises réponses. Et en plus, c'est la double peine sur cette question de l'indemnisation et du décalage du relais de l'assurance chômage. Ça n'a aucun sens et c'est profondément injuste.
Est-ce que vous allez au blocage, en fait ?
Non, on va faire valoir nos arguments et on va essayer de peser sur les mesures que le gouvernement veut prendre.
Oxfam a publié hier un rapport intitulé « Cash 40 ». Trop de millions pour quelques hommes. L'ONG pointe les rémunérations stratosphériques, dit-elle, et des écarts indécents chez les patrons du CAC 40 qui ont gagné en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen dans leurs entreprises en 2022. Est-ce que cet encadrement des rémunérations fait partie des revendications urgentes de la CFDT ?
Oui, c'est une revendication qu'on porte depuis plusieurs années. On est les fervents défenseurs de la négociation collective. Or, on ne peut que constater que ces écarts salariaux ne font que s'accroître au fil des années.
Quel est le bon écart raisonnable selon vous ?
Moi, je pense qu'il faut une loi qui encadre les écarts salariaux et qui dise qu'il faut que dans les entreprises, il y ait, par la négociation, justement, que ces écarts ils soient discutés dans les entreprises. Parce qu'il y a des réalités extrêmement différentes. Dans ce même rapport Oxfam, on voit qu'il y a une entreprise comme Téléperformance, où il y a un écart de 1453 entre le plus petit salaire et le plus élevé, ce qui paraît complètement délirant. On voit que chez Stellantis, c'est un écart encore différent. Donc, je pense que c'est par la négociation que ça doit pouvoir être discuté. Parce
vous
qu'en plus, on va
pas
avoir...
une règle générale,
parce non, on n'a pas de règle générale.
20,
nous, déjà,
20,
c'est acté. Ouais. Il faut acter le principe que si on ne régule pas et qu'on ne dit pas que la loi impose un écart maximal, les écarts ne feront que s'accroître. Donc ça doit être discuté entreprise par entreprise, parce qu'en plus, la question des salaires, des rémunérations, sont composées de façon extrêmement différente d'une entreprise à l'autre. Le périmètre, est-ce que vous parlez du groupe, de l'entreprise, de l'établissement ? Tout ça, ça doit être regardé entreprise par entreprise.
Allez, on passe au Standard d'Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour Inter, bonjour à tous, Marie-Lise et Léon, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir, d'après vous, quel est le poids actuel des syndicats dans le triptyque syndicat, patronat, gouvernement, et cet équilibre permet-il un dialogue social de qualité et efficace ?
Merci Frédéric. Marie-Lise Léon vous répond.
Alors, ce poids, il est... Les organisations syndicales sont ressorties du mouvement des retraites renforcées. Nous avons, CFDT, gagné de nombreux adhérents et adhérentes, puisque nous sommes un syndicat majoritairement d'adhérentes. Alors, je dirais que ça dépend des sujets sur lesquels le gouvernement...
Il y a toujours
gouvernement...
des adhésions, là.
Oui, bien sûr. Ça continue de monter. Je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui partent également, notamment pour des départs en retraite, des personnes qui ne poursuivent pas leur adhésion syndicale. Donc, on est renforcés.
Vous savez à combien vous êtes aujourd'hui,
Alors, on va l'être... je vous propose de revenir dans quelques jours, puisqu'on va être... On certifie notre nombre d'adhérents, puisqu'il fait toujours l'objet de beaucoup de soupçons sur la façon dont on calcule. Donc, on a une certification par des commissaires aux comptes, qui sera publié dans quelques jours. Nous étions à un peu plus de 620 000 adhérents et adhérentes en 2022. Pour 2023, on sera au moins à 2,5-3% de plus.
Il y a le plein emploi, mais il y a aussi les finances publiques. On rappelle que le déficit de la France a lourdement dérapé à 5,5% du PIB en l'an dernier et que l'endettement français s'élève à 110% du produit intérieur brut. Redresser les comptes publics, est-ce que c'est aussi une priorité, la CFDT ?
Oui, bien sûr que c'est important. La question, c'est comment on le fait. Donc, en termes de méthode, j'ai entendu Bruno Le Maire qui parlait de co-construction hier au Parlement. Nous avons fait, nous, il y a un mois, une proposition de conférence des finances publiques qui n'a fait l'objet d'aucune réponse, donc je réitère cette proposition.
Rentrons dans les détails. Quelles sont vos suggestions à faire à Bruno Le Maire sur les 10 milliards d'euros qu'il faut trouver encore avant l'été ?
Alors, l'intérêt d'une conférence, non pas des dépenses publiques, mais des finances publiques, c'est de regarder la question des recettes.
Et vous dites
parce
impôts ?
Parce qu'une question... La question de cet équilibre, c'est on est soucieux de l'équilibre à condition que les efforts soient partagés et que les richesses également soient partagées.
Donc,
alors, c'est pas forcément des impôts, regardons l'ensemble des aides aux entreprises. Quelle est la condition ? Pourquoi ? Quel est l'objectif d'aide aux entreprises ? Moi, je suis très, très, très sceptique sur l'efficacité, par exemple, du crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, ce sont des milliards d'euros distribués par an aux entreprises pour la recherche. On a encore eu cette semaine, ou il y a 10 jours, une annonce de Sanofi qui annonce le 5e plan social sur la recherche, l'abandon de la recherche en oncologie, par exemple, qui bénéficie largement de ce crédit d'impôt recherche et qui continue de licencier. Je pense qu'on a un problème. On a un problème puisque si ces aides aux entreprises ne sont pas conditionnées à des objectifs clairs, c'est quoi la cible, à quoi ça sert et à l'emploi, je pense que c'est arroser le sable.
Question de Marius sur l'application France Inter. La CFDT n'est-elle pas un peu responsable de la montée du RN en négociant des accords à la Pyrrhus qui ne permettent pas de bénéficier équitablement du fruit de son travail ?
Alors, je ne sais pas à quel accord à la Pyrrhus a pu l'auditeur fait référence. Moi, je pense qu'à l'inverse, et je pense que le syndicalisme est un rempart à la montée de l'extrême droite. Quand on fait collectif, quand on est dans un espace où chacun trouve sa place, quand on a défilé pendant les retraites, le mot que j'entendais le plus, c'est la question du respect et de la dignité au travail. Comment je trouve ma place au travail ? Comment je peux m'exprimer sur mon travail ? En gros, en quoi je compte au travail et on me considère. Et donc, c'est dans les sections syndicales, dans les entreprises, la CFDT, elle est là pour animer ce débat démocratique. Et donc, je pense qu'à l'inverse, lorsqu'il y a la possibilité d'avoir accès à un syndicat, c'est un espace d'expression qui est extrêmement utile. Le reproche qu'on pourrait nous faire, et je le prends volontiers, c'est qu'on est insuffisamment implanté sur les lieux de travail.
Les Jeux Olympiques approchent, Marie-Lise Léon. Le 15 avril, Emmanuel Macron disait compter sur l'esprit de responsabilité des syndicats pour une trêve olympique en matière sociale. Êtes-vous responsable ?
Nous sommes responsables, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on ne le sera pas pour deux ou pour trois. On a une préparation des Jeux Olympiques avec une charte sociale qui est inédite et qui a été extrêmement intéressante et constructive. Je dirais que les JO ont très bien démarré. C'est un peu comme un marathon. Là, on est dans le dernier kilomètre. C'est souvent le plus dur, c'est le money time. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se dénouent autour de l'organisation concrète des JO. Il y a des réunions qui sont organisées.
Mais clairement, vous partagez les préavis de grève déposés sur 4 mois par la CFDT ?
La CFDT ne l'a pas fait. La CFDT ne l'a pas fait parce que c'est le temps du dialogue. Voilà, moi je lance pas un carton rouge avant le début du match. Il y a des discussions qui sont déjà qui sont en cours. Tout n'est pas bouclé et donc on a posé un certain nombre d'alertes, ça a eu une certaine efficacité. Maintenant, il faut des résultats concrets et il y a un prochain point qui est prévu le 6 juin et je reviendrai vous parler des JO si vous le souhaitez à ce moment-là.
Avec plaisir. Merci Marie-Lise Léon d'avoir été au micro d'Inter, secrétaire nationale de la CFDT. Il est 8h47.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
LCL présente Angle 9, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle 9, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle 9, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur eacda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
La revue de presse, Claude Askolovic.
France Inter, le 7-10.
Et Claude, vous nous parlez ce matin d'un poème.
Que je suis allé chercher sur Internet ce matin pour nourrir mon deuil. Et sur un site précieux, Kern, qui met en ligne des revues essentielles, ici la revue Poésie, j'ai trouvé ceci. L'opacité du monde semblait s'ouvrir au ruissellement confondu de la parole, de la lumière et du sang. J'ai cru traverser vivant le nœud dont je naissais, l'illumination fixe de quelques mots inespérément accordés. Le poète, dont les mots perçaient l'incongruité d'être, s'appelait Jacques Dupin, mort en 2012, qui il y a plus de 50 ans avait accueilli un grand Américain à Paris sans le sou qui aimait Montaigne. Et combien de repas, combien de bouteilles de vin, combien de cigarettes fumées en la présence de l'autre, combien de mots partagèrent dans leur vie Dupin et Paul Auster, qui plus tard traduisit en anglais les textes de son ami et lui rendit hommage à sa mort avec grâce à la Maison de l'Amérique. Vous le verrez, cet hommage d'Auster en quelques clics sur Internet, qui n'est pas une mauvaise chose, puisqu'elle nous préserve encore un moment cet homme dont le site du New York Times nous a appris la mort à la fin de cette nuit, âgé de 77 ans. Et sur les sites de nos journaux fleurissent alors les petits trésors de Paul Auster, qui fut, me dit le New York Times, « the romancier de Brooklyn et une rockstar à Paris ». De chez nous, Auster avait ramené une façon d'écrire, forcément sur des cahiers Clairefontaine. À nous, il lègue des sourires qui me restent. Au Nouvel Obs en 2011, Auster et son épouse Siri Utzved, écrivaine comme lui, avaient raconté l'effarement de l'ami poète Dupin quand l'été 88, ils nourrissaient leur fille Sophie, âgée de 1 an, en disposant son repas devant elle et en la laissant s'en débrouiller seule. Et j'aime relire ces morceaux de vie légers qui animaient Auster aussi bien que les choses les plus graves. Allez relire sur les sites des Échos, de Télérama, de Libération, son engagement contre les armes à feu qui dévastent l'Amérique. Auster avait écrit les textes d'un livre glaçant paru il y a 1 an, Pays de sang, légende de photos de lieux de meurtre de masse, photos prises par Spencer Ostrander, le gendre de Auster, l'époux de sa fille Sophie, qui est trentenaire et chanteuse, et je le réalise maintenant, désormais orpheline. Et il me revient alors que Paul Auster, qui butait sur la vie et les mots, était devenu écrivain par la mort de son propre père, un choc et un déclic écrit le monde dans une belle nécrologie. 3 semaines plus tard, il couche sur le papier les premiers mots de l'invention de la solitude, la prose coule naturellement. Et me revient aussi que l'invisible frontière entre la mort et la vie fut la compagne de Paul Auster, qui il y a 2 ans avait perdu son fils et une petite fille dans les enfers de la drogue. Lui-même, il s'en était souvenu, dans un livre de souvenirs, avait failli mourir à 3 ans dans un supermarché, ça je le retrouve sur le site du Nouvel Obs. Lui-même, ça je le lis dans la nécrologie de Libération, avait vu mourir devant lui dans une excursion de camp de vacances. Il avait 14 ans, l'été 61, un adolescent qui rampait devant lui frappé par la foudre. Et Auster, dont la tête était à la hauteur des pieds du jeune mort, avait été hanté pour toujours par l'aléatoire de la Camarde. Il en avait fait littérature, une littérature hantée de fantômes, mais pourtant légère comme la fumée de ses cigares hollandais. Et quand il nous quitte, son moment venu, avant de rouvrir ses livres, je relis les amitiés que Auster inspirait, son lien épatant avec l'écrivain sud-africain Paul Coetzee, qui en mars dernier, dans le Nouvel Obs, l'espérance sauvée du cancer, l'invitait à raconter l'histoire de ses voyages, et avec qui il avait mené une correspondance minutieuse et profonde, à l'ancienne par lettre papier, qui avait donné un livre que Le Monde, l'été dernier, racontait joliment. Je relis aussi dans Le Monde encore l'anecdote fondatrice d'un gamin de 8 ans dévoré de baseball, ratant l'autographe de son héros Willie Mays parce qu'il n'avait pas de crayon. Depuis ce soir-là, j'ai toujours eu un crayon sur moi où que j'aille, disait Auster, et je le dis à mes enfants, c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Et on parle aussi, Claude, d'un pressentiment.
Une pensée plus forte que la raison qu'il y a 30 ans avait saisi un grand journaliste alors à l'Équipe, Philippe Brunel, qui s'en souvient sur le site d'Ouest France. L'idée que ce jour-là, 1er mai 1994, un pilote allait mourir dans la chaleur atroce qui enserrait le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin, la veille déjà aux essais était mort l'Autrichien Roland Ratzenberger. Et Brunel alors fit cette chose très morbide. J'ai descendu la grille de départ et je l'ai remontée pilote par pilote en fixant leur visage pour savoir à qui correspondait ce pressentiment. Je suis arrivé devant Ayrton Senna, pâle et livide, le casque posé sur la monoplace comme un masque funèbre, et je me suis dit il ne devrait pas prendre le départ. Et ce jour-là, Ayrton Senna mourut effectivement, et vous lirez sur les sites de l'Équipe, du Point, du Figaro, comment Senna au plus profond de lui-même aurait voulu ne pas courir ce jour-là. Et l'éternité de Senna, qui un jour, ça je le lis dans le Figaro, avait au péril de la sienne sauvé la vie d'un pilote accidenté, la stupeur durable de l'absence de Senna qui pilotait parfois au-delà de toute perception consciente, cette stupeur se marie dans celle de la non-existence de Paul Auster où nous entrons, elle imprègne ce que je lis. Ainsi, sur le site de La Montagne, je lis l'amitié, la sororité qui est née en France, en Saône-et-Loire, dans un hôtel, dans les festins que concocte Katia, ukrainienne réfugiée, et Rima, russe d'origine tatare, devenue sa patronne, son amie. Je pense aux douceurs de Brooklyn, aux âmes consolées. Et j'y pense encore, lisant sur le site du Nouvel Obs, la correspondance que le journal organise entre 2 jeunes femmes, l'une israélienne, l'autre palestinienne de Gaza. Je leur souhaite un jour le café, la cigarette partagée.
Et on parle enfin d'une torture.
Un instrument qu'on appelait le tripalium, consistant de 3 morceaux de bois, bois sur lequel on fixait les esclaves punis au temps des Romains. Et ce mot tripalion, cela serait la racine d'un autre, le travail, on en parle aujourd'hui. Et cela fâche fort, sur le site de West France encore, une sémiologue, Mariette Darigrand, autrice d'un livre, L'atelier du tripalium. Non, le travail ne vient pas de torture, qui voit dans cette origine une fake news doloriste et marxiste. En vrai, dit-elle, elle cite Littré, le mot travail viendrait du vieux français « travail » avec un H à la fin, qui désignait une machine en bois par laquelle on faisait entrer le cheval pour le ferrer, et par le latin, le travail est cousin de la travée, poutre en bois sur lequel repose le toit, et on peut dire alors, dit la sémiologue, que le travail charpente nos vies. Bonne journée.
Merci, oui, c'est la fête du travail. Merci Claude pour cette revue de presse.
La journée internationale des travailleurs, Nicolas.
Oui, pardon. À vous Mathilde Serrel, avec un monde nouveau ce matin, des danseurs de K-pop russes.
On va faire une expérience. Vous tapez K-pop in public Russia one take sur YouTube et vous verrez apparaître un torrent de vidéos de fans de K-pop russes en train de danser près de la place rouge à Moscou. Elles et parfois ils débarquent avec leur enceinte et entament un show calqué sur les looks et les chorés synchronisés de leurs idoles sud-coréennes. Les Blackpink, bien sûr, le nouveau girls band Baby Monster ou bien encore le quatuor mixte Card, ici repris par l'un des groupes de K-popers russes, les Patata Party.
très beau nom.
On appelle ça des cover dance et ça participe de la déferlante K-pop en Russie. D'après des profs de l'école de danse de K-pop et leurs élèves interrogés il y a quelques jours par l'agence Reuters.
Le phénomène est devenu contagieux grâce aux K-popers qui ont commencé à sortir dans la rue pour tourner leurs clips.
Merci. Autre facteur d'accélération en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans et la mise en place de sanctions qui empêchent l'accès aux productions culturelles occidentales, la K-pop mais aussi les mangas japonais, les films, les jeux vidéo chinois se sont mis à déferler en masse. Les blockbusters hollywoodiens et autres produits de la culture occidentale continuent parfois de circuler en pirate. On l'a vu avec les projections clandestines du film Barbie, mais les productions de l'Extrême-Orient s'imposent comme nouveaux diffuseurs de pop culture. Seulement, contrairement à la Chine, la Corée du Sud n'est pas vraiment sur le même axe géopolitique que Vladimir Poutine. Un rapport de l'ONU sur les débris de missiles en Ukraine vient même de confirmer l'existence d'un transfert d'armement entre la Corée du Nord, son ennemi historique, et la Russie. Les danseurs de K-pop russes pourraient ainsi se retrouver pris à partie, considérés comme des vecteurs d'une propagande occidentale. Et c'est ce qui est arrivé à un groupe de K-popeuses en juillet dernier dans les rues de Moscou, interpellé par des ultranationalistes russes et prié de se rhabiller.
Merci Mathilde et à tout à l'heure dans Nouvelle Tête. Lisons Daniel. Bonjour, aujourd'hui vous êtes Rebecca.
Ouais, pardon, je comprends pas de où on travaille un 1er mai en fait. Je me sens exploitée et opprimée. C'est clairement écrit sur mon agenda que c'est férié. Ah, franchement, si merde les syndicats de copropriété. Qu'est-ce qu'il y a Mathilde ? Ah, on dit syndicat tout court. Ok, je savais pas. Bah si merde les syndicats, là, la CGM et la CTLM. Le bonhomme vert là, fait en gazon, c'est lui qui a la grosse tête, non ? Qui fait les revendications en général. Je sais plus, je confonds les concepts des fois. Bref, donc aujourd'hui apparemment c'est la fête du travail, donc je me suis fait faire renseigner sur ChatGPT. En fait, d'après ce que j'ai compris, la fête du travail c'est arrivé juste après la fête de la musique. En fait, c'est Jean-Jacques Lang, le ministre de l'Agriculture de l'époque. Il a dit bon, on va fêter la musique, et tout le monde est descendu chez lui le 21 juin pour montrer un peu ce qu'il savait faire au niveau de la musique, donc principalement des ados mal sapés qui refont Kurt Cobain, mais que au niveau de la graisse capillaire, parce que pas au niveau de la guitare. Bref, vous suivez ou pas? Enfin, j'ai l'impression d'être genre un éminent professeur d'histoire, genre émérite. Tu vois ou pas, attends, qui vous apprend des trucs et tout. Très très kiffant. Bref, donc je continue. Apparemment, Jean-Jacques Lang, comme il a vu que ça avait grave marché, il s'est dit, je vais faire pareil avec le travail. Et il a créé la fête du travail sur le même modèle, mais le 1er mai. N'hésitez pas à prendre des notes hein, si vous trouvez que c'est un peu complexe. C'est vrai qu'il y a pas mal de notions. Claude, je pourrais vous envoyer mon PowerPoint si vous voulez. Et le 1er mai, je pense que j'ai capté comment ça fonctionne, en fait, grâce à un raisonnement analogique. En fait, pour faire, c'est comme la fête de la musique, les gens descendent dans la rue pour montrer ce qu'ils savent faire en musique. Et ben, pour la fête du travail, je crois qu'ils descendent dans la rue pour montrer ce qu'ils savent faire dans leur travail. Les secrétaires médicales, par exemple, bah, j'imagine, elles prennent la carte vitale des gens, elles récupèrent leurs analyses d'urine, les pompiers, ils éteignent les incendies, les dentistes, ils soignent. Tain, bon, en vrai, je sais pas ce que je ferais comme démonstration professionnelle, parce que je suis community manager d'une marque de prêt-à-porter. Enfin, même moi, je comprends pas le sens de mon taf, ça existe que depuis 5 ans. Si je devais faire dans la rue ce que je fais au taf, bah, en vrai, je pense que j'irais boire des cafés en critiquant les autres. Et des fois, je crierais « Sandro !» aux passants, comme ça, aux heures où N plus 1 me demande pourquoi elle me paye. Puis aussi, je barrerais la route aux gens avec des photos de mannequins qui tirent la gueule, mais bien sapés, en leur hurlant « Commentez cette photo !» Ah la vache, c'est dur la réalité parfois. Bon, ouais, de toute façon, ce taf, c'est temporaire. Hein. J'ai vu sur TikTok hier, il y a une meuf, elle est mannequin main, elle se fait 10 000 balles par mois. On dit mannequin de détail, apparemment. C'est un peu vexant. Mais Balek, ça paye les clopes, non? Du coup, je profite de cette tribune pour faire la pub de mes mains. N'hésitez pas si vous avez la vidéo. Donc, nous avons clairement des mains de pianiste, ongles en amande, garantie zéro cuticule parce que les petites peaux, ça me deg. Je sais pas si vous voyez. Pas de risque d'être abîmée non plus parce que je fais jamais la cuisine, jamais la vaisselle parce que je mange que au resto. Je porte jamais de trucs lourds et ma passion, c'est de faire des manicures. Oh, c'est fou, je trahis ma vocation. C'est un beau symbole pour la fête du travail, je trouve. Bon, allez, bon 1er mai à tous et oubliez pas les fleurs là. Des chrysanthèmes, non ? Bisous.
Bisous, lisons Daniel. Dans quelques instants, ce sera le débat du 7-10 en forme d'hommage à Paul Auster. 9h20, l'invité de Léa Salamé. Aujourd'hui, Juliette Binoche. Les infos à suivre dans quelques instants.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge. Le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Maintenant,
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Allez, un rendez-vous à l'antenne d'Inter.